Vous écoutez RFI, il est 7h à Paris, 1h à Washington.
RFI Matin.
L'heure du journal, bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Martin, la guerre commerciale est déclarée sur le continent américain, mais Donald Trump se dit prêt à discuter.
Face à la surenchère douanière, le président des États-Unis doit s'entretenir avec ses voisins mexicains et canadiens. Une guerre commerciale qui pourrait s'étendre avec dans le viseur de Donald Trump la Chine, mais aussi l'Union Européenne, vous l'entendrez.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats continuent et les réfugiés affluent.
Autour de Goma, dans le nord Kivu, mais aussi à Bukavu, capitale provinciale du sud Kivu, où les habitants affichent leur inquiétude et font des provisions. Reportage à suivre à Bukavu, reportage aussi à Souyeda, dans le sud-est de la Syrie. Souyeda, chef de la minorité druze du pays, minorité qui entend bien se battre pour ses droits face au nouveau pouvoir en place. En Allemagne, les élections fédérales sont dans 3 semaines, dans un climat électrique et polarisé. Et puis la consécration pour Beyoncé, enfin sacrée du Grammy Awards de l'album de l'année. Une grande première pour la superstar américaine.
Après un décret choc sur les droits de douane, Donald Trump se dit ouvert au débat avec ses voisins.
Le président américain prêt à discuter avec le Canada et avec le Mexique. Quelques heures après la signature d'un décret imposant 25% de droits de douane aux produits venant des deux pays, débat qui promet d'être houleux, Ottawa et Mexico qui ont annoncé des mesures de rétorsion puisque Washington violerait les termes de leur accord de libre-échange. Le milliardaire républicain s'est dit prêt à aller encore plus loin et à ajouter des droits de douane supplémentaires, notamment contre le Canada. Et on retrouve en direct de New York notre correspondante Carrie Newton. Carrie, la guerre commerciale dans laquelle s'est lancé Donald Trump ne fait peut-être que commencer. Sa prochaine cible serait l'Union européenne.
Oui, c'est ce qu'il a affirmé hier soir en rentrant de son week-end à Mar-a-Lago. Il a menacé les produits européens d'être ses prochaines cibles. Donald Trump a accusé l'Union européenne d'être atroce, de profiter des États-Unis. La meilleure preuve pour lui, c'est le déficit de 300 milliards de dollars de la balance commerciale côté américain. Il estime que les Européens n'achètent pas suffisamment d'automobiles ou de produits agricoles américains. Il l'a carrément dit, pour lui, l'UE dépasse les bornes. Il n'a pas donné en revanche de calendrier, mais il a promis des droits à l'entrée imposée à certains produits européens très bientôt.
Et Carrie, le président américain assume ses guerres commerciales à 100%, même si cela signifie une augmentation des prix pour les consommateurs américains.
Ce n'est pas ce qu'il avait promis pendant la campagne. Pourtant, faire baisser l'inflation était bien l'une de ses deux principales promesses. Il avait convaincu ses électeurs que le consommateur américain ne supporterait pas le coût de l'augmentation des droits de douane. Mais là, on l'a vu ce week-end commencer à préparer ses supporters sur son réseau social à ce que l'inflation ne baisse pas aussi vite que prévu.
Karen Auton, correspondante de RFI aux États-Unis. Guerre commerciale à retrouver également ce matin sur notre site internet. Nos confrères de la rédaction numérique de RFI se penchent sur les propos de Donald Trump qui a reconnu clairement, et c'est une première, que les consommateurs américains pourraient souffrir des répercussions de ces nouveaux droits de douane. Article à retrouver évidemment en une du www.rfi.fr.
Donald Trump qui va rencontrer Benjamin Netanyahu.
Les deux hommes doivent se voir demain à Washington. Benjamin Netanyahu, premier dirigeant étranger à rendre visite à Donald Trump depuis son investiture. Avec comme une idée de discussion, le début de la deuxième phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, qui doit inclure un arrêt total des combats et le retrait israélien de Gaza. Le premier ministre israélien qui est déjà arrivé dans la capitale américaine et qui doit s'entretenir aujourd'hui avec Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient. Alors que les futures négociations s'annoncent difficiles, Benjamin Netanyahu, qui n'a pas vraiment de levier, estime Gershon Baskin, ancien négociateur et chercheur israélien.
Si Trump veut que la guerre s'arrête, elle s'arrêtera. Netanyahu n'a aucun levier sur Trump. Il pense peut-être que Trump lui donnera un feu vert pour construire plus de colonies et annexer la Cisjordanie ou attaquer l'Iran. Mais il se trompe sur ce qu'est la deuxième présidence de Donald Trump. Ce que le président américain voudrait pour la région, d'après ce que l'on perçoit, c'est une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, ce qui ne peut pas se faire sans la création à terme d'un État palestinien. Et c'est quelque chose dont Netanyahou ne veut pas, ni sa coalition gouvernementale d'ailleurs. Et le problème pour Netanyahou, c'est que s'il doit accepter ce que veut Trump, il va perdre sa majorité gouvernementale. Et c'est à condition, bien sûr, que Donald Trump respecte ce qu'il a annoncé.
Gershon Baskin au micro de Muriel Paradon et de Nicolas Benita, envoyé spéciaux de RFI à Jérusalem.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, Martin, les habitants de Bukavu font leurs provisions.
Alors que des combats ont été recensés ces derniers jours dans le sud Kivu, le M23 soutenu par l'armée rwandaise est toujours à l'offensive. L'armée congolaise annonçait hier la mort au combat de l'un de ses officiers, le colonel Alexis Rogabisha, tué lors d'affrontements au niveau de Nouabibwe ce samedi. Une perte inestimable, a déclaré le porte-parole de la FRDC, Sylva Ekenge, et 75 kilomètres plus au sud de Nouabibwe, direction Bukavu, la capitale du Sud Kivu, et ville-refuge pour des déplacés des combats. Les habitants qui sont inquiets et qui commencent à faire des stocks. Reportage de William Bassimike.
Debout devant la porte d'un dépôt, Rosette veut se procurer de quelques sacs de farine pour sa famille.
Je suis en train de faire mon stock. J'ai déjà acheté de la braise, des haricots, de l'huile et maintenant de la farine. Nous avons un peu peur, mais nous avons confiance. Notre armée va battre le M23 et nous l'encourageons.
À cause de la guerre, Bukavu est privé des denrées alimentaires en provenance du Nord Kivu. Conséquence, les prix commencent à monter. Dans son dépôt, Jean-Jacques Biragui fait part de ses craintes.
Le prix de la farine va augmenter car elle provient de Goma, pareil pour les haricots. D'autres proviennent du Rwanda. Le lait de Goma devient de plus en plus rare, sauf pour ceux qui en avaient en grande quantité. La pomme de terre se vendait à 3000 francs, actuellement c'est 3500. Alors s'il n'y a pas un couloir ouvert pour le commerce, les prix vont augmenter.
Après avoir fini ses courses au marché, Lebon, 51 ans, jette son téléphone. Il accuse les réseaux sociaux de diffuser des fausses informations et s'adresse au gouvernement congolais.
Ce sont les réseaux sociaux qui créent la panique. Parfois on nous dit ceci, on nous dit cela. Moi je suis favorable à ce que l'on ferme les réseaux. Le président Tshisekedi doit les couper car nous avons besoin de silence. Il faut laisser l'armée se battre.
Dans son message à la société civile, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, a exhorté les habitants à rester unis et à lutter contre la peur. Il appelle les Congolais à ne pas reproduire les erreurs du passé. William Bassimike, Bukavu. RFI.
La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, on y revient dans le prochain journal Afrique. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Xavier Besson.
7h07 à Paris, 9h07 à Damas, direction la Syrie à présent, où la minorité druze fait de la résistance.
Car si le nouveau gouvernement intérimaire d'Ahmed al-Shara a annoncé la semaine dernière la dissolution de toutes les factions armées, deux des principaux groupes armés du pays refusent pour l'instant de rendre les armes. Deux groupes druzes de Souyeda qui réclament des gages, notamment la rédaction d'une nouvelle constitution. Problème, ce nouveau texte ne pourrait voir le jour que dans plusieurs années. Reportage de notre envoyé spécial, Manu Chaplin.
Face à la nouvelle, Nagdam a serré les dents. Depuis qu'Ahmed al-Shara a demandé aux factions armées de Souaïda de déposer les armes, elle craint pour sa sécurité, doute que le nouveau gouvernement soit en mesure de protéger les minorités.
C'est trop tôt pour juger. Cela fait seulement 2 mois qu'ils sont au pouvoir. Peut-être qu'ils arriveront à créer un gouvernement avec des lois justes, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas clair. Leur vision islamiste est terrifiante et l'origine de leur combat aussi.
Souaïda a longtemps vécu préservé de la guerre, jouit d'une autonomie particulière. Le régime de Bachar al-Assad s'y était peu à peu désinvesti, laissant la place aux multiples factions armées. Elle refuse aujourd'hui de déposer les armes, comme Abou Ali, combattant de la faction Al-Jabal.
C'est une question de temps, le temps que le pays se reconstruise, que la confiance entre les gens revienne. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas confiance pour me rendre à Damas sans rencontrer de problème.
Depuis la chute du régime, ces combattants empêchent toute entrée du nouveau gouvernement intérimaire, Chaki Bazam, chef de la brigade Al-Jabal.
Pour le moment, il n'y a que des hommes d'Ayad Tahrir al-Sham. C'est une mauvaise décision. En tant que Syriens, nous avons tous le droit de participer à ce triomphe et à la gestion du pays.
En janvier, l'une des hautes autorités religieuses de la communauté druze a déclaré qu'il n'accepterait pas que les groupes armés déposent les armes avant qu'une constitution n'ait été rédigée. Manon Chaplin à Damas, RFI.
Au Liban, des funérailles pour Hassan Nasrallah.
Des funérailles qui auront lieu le 23 février prochain pour l'ancien chef du Hezbollah. Nasrallah tué fin septembre dans un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth. Son successeur, Naïm Kassem, qui a promis des funérailles grandioses et populaires selon ses mots. Lors d'une allocution télévisée, Hassan Nasrallah, qui avait passé 32 ans à la tête du mouvement islamiste, financé et armé par l'Iran.
L'actualité en Europe à présent, dernière ligne droite en Allemagne, où les élections fédérales se dérouleront dans moins de 3 semaines.
Et le parti chrétien démocrate, la CDU, qui fait la course en tête dans les sondages. La CDU, qui tient d'ailleurs un grand congrès ce lundi à Berlin, mais l'ancien parti d'Angela Merkel est aujourd'hui critiqué comme jamais, notamment après avoir accepté le soutien de l'extrême droite la semaine passée au Parlement pour faire passer un texte restrictif sur l'immigration. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties manifester en Allemagne ces derniers jours dans une campagne polarisée comme jamais, Pascal Thibault.
Après les manifestations massives de ce week-end qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes à travers l'Allemagne, l'accès au congrès de la CDU ce lundi à Berlin pourrait être perturbé. À nouveau des protestations contre le vote d'une motion au Parlement des chrétiens démocrates avec les voix de l'extrême droite la semaine dernière auront lieu. Le président de la CDU, Friedrich Merz, a exclu hier une élection comme chancelier avec les voix de l'AfD. Le tenant du titre, Olaf Scholz, a mis samedi la crédibilité de son adversaire en cause. Le congrès de quelques heures doit permettre aujourd'hui de serrer les rangs et d'adopter un programme de 15 points en cas de victoire aux élections du 23 février. Ils reprennent sur l'immigration les textes présentés la semaine dernière au Bundestag et soutenus par beaucoup d'Allemands. Mais les chrétiens-démocrates ne pourront gouverner seuls et auront du mal à trouver un partenaire acceptant ces mesures. La majorité du programme d'action aujourd'hui concerne les réformes économiques et sociales, baisse d'impôts, énergie moins chère, réduction de la bureaucratie. Les chrétiens-démocrates en tête dans les sondages ont 3 semaines pour convaincre. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Pascal, que l'on retrouve en direct avec vous, Andréane, pour un gros plan sur cette campagne électorale dans un peu plus d'une heure.
La police géorgienne a arrêté ce dimanche 2 figures de l'opposition.
Le pays qui vit au rythme des manifestations depuis plusieurs semaines, le gouvernement géorgien pointé du doigt pour sa dérive autoritaire pro-russe. Les manifestants qui accusent aussi les dirigeants d'éloigner Tbilissi d'une possible intégration dans l'Union européenne. Lui qui a d'ailleurs dénoncé par la voix de Kaya Kallas, la chef de la diplomatie, la répression brutale et inacceptable des manifestations en Géorgie. L'un des 2 opposants arrêtés hier a été libéré cette nuit sous caution.
Allez Martin, on termine ce journal en musique et aux États-Unis avec le sacre annoncé de Beyoncé.
Queen Bee, reine de la nuit, et qui réalise le rêve d'une vie grâce à ça. Actuellement Texas Hold'em, on entend même Andréane Mellor chantonner un extrait de Cowboy Carter qui lui a permis de remporter tout à l'heure pour la première fois le Grammy Awards de l'album de l'année, la superstar de 43 ans enfin sacrée. Et on retrouve en direct de Los Angeles notre correspondant Loïc Piala. Loïc, Beyoncé souvent placée et donc enfin gagnante de l'album de l'année lors de cette 67e édition.
Oui, c'est la fin d'un paradoxe hein, qui a parfois tiré vers la polémique, parce qu'avant la cérémonie de ce soir, Beyoncé avait déjà gagné 32 Grammy, plus que n'importe quel autre artiste sur la planète, mais jamais cet album de l'année, or c'est le prix le plus prestigieux. Eh bien, ça y est, avec ce qui est pourtant un album country, Cowboy Carter, pas vraiment le style qui l'a rendu célèbre. Not Like Us, le morceau entêtant de Kendrick Lamar, rappeur surdoué de Compton, et la chanson, l'enregistrement et la chanson rap de l'année, difficile de contester ce choix des 13 000 votants de l'Académie. Shakira gagne l'album pop latino, mais elle a surtout fait partie des artistes, en compagnie d'Alicia Keys, Chappell Roan ou Lady Gaga, à avoir parlé de politique dans la nouvelle Amérique de Donald Trump. Elle a dédié son prix à ses frères et sœurs immigrés dans ce pays. Je me battrai à vos côtés, a promis la superstar colombienne. Et puis oui, Gojira, logiquement récompensé de la meilleure performance métal de l'année avec Mea Culpa. Souvenez-vous, ce moment fou lors de la cérémonie d'ouverture des JO, le groupe jouant sur les murs de la conciergerie à Paris avec une Marie-Antoinette décapitée et un torrent de sang. C'était eux, les Français de Gojira, premier Grammy après 4 nominations.
Voilà, palmarès complet. Merci Loïc Piala. Loïc Piala en direct de Los Angeles, et c'est avec Queen Bee et les Grammy que se referme ce journal. Je vous laisse avec Andréane Mellor pour la suite de RFI Matin.
Merci Martin Guèze, vous revenez tout à l'heure à 9h. 7h13 à Paris, l'actualité africaine dans un peu plus d'un quart d'heure. Avant cela, notre grand invité international ce matin, l'ancien otage d'Al-Qaïda, le journaliste Olivier Dubois, est avec nous ce matin. Entretien avec Arnaud Pontus dans 5 minutes. D'abord un mot de football avec vous Antoine Grenier. Le rebond n'aura pas duré pour Manchester City.
Qualifié in extremis pour les barrages de la Ligue des Champions en milieu de semaine, les Citizens rechutent avec une lourde défaite dans le choc de la 24e journée de Premier League face à Arsenal. Des Gunners qui s'imposent 5-1. Festival pour William Saliba et ses partenaires face à une équipe qui les a si souvent dominés ces dernières saisons.
C'est clair, on est très content. C'est une équipe, voilà, même s'ils sont pas en confiance en ce moment, voilà, c'est pas une équipe facile à jouer. Et voilà, on se devait de les battre à la maison et on l'a fait avec la manière, donc c'est top.
William Saliba chez nos confrères de Canal+. Mauvaise soirée également pour Manchester United, battu 2-0 par Crystal Palace, pendant que Tottenham relève un peu la tête avec un succès 2-0 sur Brentford.
En Ligue 1, l'ennui, puis la folie pour Marseille face à l'Olympique Lyonnais.
Première mi-temps soporifique, puis une seconde spectaculaire et renversante qui voit l'OM s'imposer 3-2 sur un but de Luis Enrique à la 85e minute. Marseille reste deuxième à 10 points du PSG, tandis que Lyon stagne à la 7e place. Les débuts de Paulo Fonseca sur le banc n'auront pas été aussi réussi que prévu, mais le travail va payer, estime le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette au micro de DAZN.
C'est sûr qu'on n'a pas enchaîné de victoires depuis un moment, mais dans le jeu, c'est pas aussi mal qu'on l'entend ou qu'on le dit. Donc on sait que c'est à nous, on a un nouveau coach, on va travailler, on a méthodes de travail différentes, mais j'ai grande confiance en mon collectif. On y croit tous ensemble, donc c'est à nous de travailler cette semaine. On va beaucoup travailler pour bien comprendre et se préparer pour le prochain match.
Et les autres résultats de cette 20e journée, un partout entre Toulouse et Nice et Angers face au Havre, victoire de Nantes 2-1 sur Rennes et succès sur Reims et succès de Rennes 1-0 sur Strasbourg.
En tennis, l'Espagne et la France qualifiées pour le deuxième tour qualificatif de la Coupe Davis.
Même privé de Carlos Alcaraz, les Espagnols coachés par David Ferrer ont disposé facilement de la Suisse, 3-1. Les Bleus, eux, n'ont pas flanché face au Brésil. Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi ont apporté aux Bleus le point de la victoire lors du double.
En judo, pour finir, le Grand Slam de Paris s'est tenu à l'Arena de Bercy en l'absence de plusieurs médaillés olympiques des Jeux de Paris.
Des stars au repos, à l'image de Clarisse Agbenino et Teddy Riner. Le colosse guadeloupéen se remet d'une opération au coude droit au début du mois. L'objectif étant d'être totalement opérationnel dans la perspective des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
Ça faisait trop longtemps que je laissais traîner. Aujourd'hui que j'ai réussi à gagner mon troisième titre olympique et ma cinquième médaille d'or olympique, je me suis dit voilà, si tu veux partir sur Los Angeles, il faut faire les choses bien. Donc il fallait que je passe sur l'UIA, qu'il resculpte un petit peu mon articulation, qu'il nettoie toutes les malfaçons. Aujourd'hui c'est chose faite, donc du coup j'ai attaqué la rééducation. Et puis step by step, on va revenir tout doucement. Je me précipite pas. Los Angeles, c'est dans maintenant 3 ans et demi. Il faut se laisser le temps. Il faut pas prendre, faut pas courir, parce que une Olympiade c'est long. Il va falloir monter sur des beaux tournois, aller bien se préparer, comme j'ai fait pour Paris. Prendre son temps, mais bien se préparer.
Teddy Riner au micro d'Éric Mamrut. Sans ses têtes d'affiche, l'équipe de France aura décroché 15 médailles, dont 3 en or, lors de ce Grand Slam de Paris.
Antoine Grenier.
RFI Matin.
Bonjour Nathanaël Vitron.
Bonjour Andréane.
Pour ce premier Aujourd'hui l'économie de la semaine, vous venez nous parler d'un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines. Ce mot, c'est oligarchie.
Oui, souvenez-vous, il y a 15 jours, Joe Biden, au moment de faire ses adieux à la Maison Blanche, avait lancé cet avertissement dans un message adressé aux Américains. Today,
an oligarchy. Une oligarchie est en train de prendre forme aux États-Unis. Une concentration extrême des richesses et du pouvoir aux mains d'un petit groupe d'ultra-riches qui menace notre démocratie tout entière.
Alors reprenons les bases. Qu'est-ce qu'une oligarchie ? Le mot vient du grec oligos qui veut dire petit nombre et archo qui veut dire diriger. Il désigne une forme de gouvernement où le pouvoir est aux mains d'un petit groupe de personnes, par opposition par exemple à une monarchie où le pouvoir est aux mains d'un seul individu comme un roi. Ça c'est la définition du dictionnaire. Mais à notre époque, quand on parle d'oligarque, on pense plutôt aux hommes d'affaires qui ont fait fortune après la chute de l'Union soviétique, quand l'État qui possédait tout s'est mis à brader son empire et ses industries. Les oligarques russes, un petit groupe d'hommes qui, sans être directement aux commandes, ont acquis assez de richesses et de pouvoir pour influer directement sur les prises de décisions politiques et économiques du Kremlin.
C'est très clair, merci Nathanaël. Alors dites-nous, quel est le rapport avec les États-Unis ?
Eh bien, il s'appelle Howard Lutnick, secrétaire d'État au commerce, Linda McMahon, ministre de l'Éducation, Scott Bessent, secrétaire d'État au Trésor, ou encore Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, à la tête d'une commission créée de toutes pièces et qui lui permet de mettre son nez dans tous les recoins du gouvernement fédéral. En tout, l'administration Trump compte 13 milliardaires. Leur fortune cumulée dépasse 450 milliards de dollars. Si vous regardez le PIB, Andréane, c'est-à-dire la production cumulée de tout un pays sur toute une année, aucun pays africain n'arrive à ce chiffre, 450 milliards de dollars. Le gouvernement Trump est le plus riche de toute l'histoire des États-Unis.
Et donc c'est à eux que Joe Biden faisait référence.
Alors oui, mais pas seulement. Il parlait aussi des grands patrons de la tech, ceux qu'on a commencé à surnommer les broligarques, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, Sam Altman, tous ceux qui se sont empressés de prêter allégeance à Donald Trump en revenant par exemple sur leur programme interne de promotion de la diversité pour bien signifier qu'ils étaient dans son camp. Ils financent aussi Donald Trump. Les trois que j'ai cités ont donné 1 million de dollars pour la cérémonie d'investiture du président. Mark Zuckerberg est même allé plus loin puisque Meta a accepté de verser 25 millions de dollars de dommages et intérêts à Donald Trump pour se faire pardonner de l'avoir banni de Facebook après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. L'objectif, évidemment, c'est de s'attirer les faveurs de la Maison Blanche sur la régulation de l'intelligence artificielle. Ils n'en veulent pas. Sur l'assurance que l'État fédéral ne cherchera pas à briser leur méga corporation au nom de la lutte contre les monopoles. Voilà donc un petit groupe d'hommes qui, sans être directement aux commandes, ont acquis assez de richesses et de pouvoir pour influer directement sur les prises de décisions politiques et économiques de la Maison Blanche, pardon.
Attention.
Comme quoi, il n'y a pas besoin de parler russe.
Nathanaël Vitron pour Aujourd'hui l'économie, 7h19 à Paris. Notre grand invité international ce matin face à Arnaud Pontus. En studio, le journaliste Olivier Dubois, auteur du livre « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda ».
Bonjour Olivier Dubois.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bienvenue sur RFI. Vous avez été otage du JNIM, la filiale d'Al-Qaïda au Sahel, durant 711 jours. Presque 2 ans de captivité avant d'être libéré le 20 mars 2023. Ça fait donc bientôt 2 ans maintenant que vous avez retrouvé la liberté. Est-ce que vous vous êtes remis ?
Oui, je pense que ça va mieux, évidemment, comparé à la période où je suis, enfin les premiers mois après la libération, où j'étais quand même totalement désorienté, et puis il m'a fallu du temps pour rentrer dans ma vie et pour passer du désert à la réalité, à la vie normale.
À la vie normale, la vie d'aujourd'hui, près de Paris.
Voilà, près de Paris.
Et ce livre, il vous a servi de thérapie en quelque sorte, Olivier Dubois.
Bah, ça m'a permis de revenir de façon détaillée sur tous ces événements et de, oui, en effet, de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir lier aussi les choses et puis de pouvoir coucher cette histoire sur papier et la rendre disponible pour ma famille, pour mes proches, pour moi.
Pour vous plus tard aussi peut-être.
Exactement.
Comme un souvenir. Vous avez été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, alors que vous veniez interviewer un chef djihadiste. Est-ce que vous comprenez ce qui vous est arrivé ce jour-là ?
Oui, enfin, maintenant oui, avec le recul évidemment. En effet, j'allais interviewer un chef djihadiste, et puis je pense qu'on n'est pas, enfin, le canal n'était pas bon. Je suis pas tombé sur les bonnes personnes. Il y a certainement eu un problème aussi au niveau de mon fixeur, qui a certainement participé à une sorte de trahison, ouais. Visant à gagner de l'argent et puis à me faire kidnapper.
Ouais. Vous devenez otage, mais pour tenir, pour résister, vous refusez d'être otage en quelque sorte, et vous vous dites que vous allez faire un reportage, que vous continuez à être journaliste en quelque sorte.
Voilà, il fallait se raconter autre chose, il fallait tenter de rester debout et de résister, et voilà, la situation dans laquelle j'étais, être otage, être à la merci de vos ravisseurs, c'était pas la meilleure façon d'évoluer dans cette expérience, et donc le fait de penser que j'étais au travail, que je me levais le matin et que j'allais dans un reportage, ça m'a beaucoup aidé, c'est ce qui m'a fait tenir, entre autres.
Ouais. Et vous livrez au lecteur donc un journal de captivité qui est très précis, daté, détaillé, parce que durant ces 23 mois, vous allez noter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment vous vous y prenez ? Vous n'avez pas de carnet, évidemment, sous la main.
Alors, je comprends assez rapidement qu'il faut poser des questions et puis aussi concilier par écrit les réponses. Oui. Et je demande des stylos de façon instamment. Et ce qui est intéressant, je le comprendrai petit à petit, c'est que nos gardes changent tous les 15 jours. Donc, vous avez un premier groupe qui vous dit non, mais le deuxième groupe va vous dire oui.
Alors, ça marche pour le stylo. Auprès du deuxième,
ouais. Voilà, par exemple, puis un autre, ça va être du papier, puis vous gardez ça. Et là, je commence à pouvoir écrire petit à petit ce que j'observe et ce que je pose comme question, enfin les réponses que j'ai à mes questions.
Et vous cachez ces notes, hein, parce que vous avez bien conscience que si on met la main dessus, si vos geôliers mettent la main dessus, on va vous les confisquer.
Voilà, eux ils veulent pas que je parle, que je pose des questions, et surtout pas qu'on écrive. Les djihadistes n'aiment pas qu'on écrive. Donc il fallait cacher tout ça.
Et faire croire que vous faisiez des listes, des recettes.
Voilà, des choses comme ça, hein. Voilà, exactement. Oui. Une sorte de leurre, on cachait les vraies notes, les vraies informations, puis je faisais des papiers leurres avec des listes et des recettes, si jamais ils tombaient dessus.
Ouais. Olivier Dubois, quelles étaient vos conditions de captivité ? Le livre dit, c'est le titre, hein, « Prisonnier du désert ». Vous vous retrouvez dans cette enfer de sable et de roc.
Enfer de sable, de roc, on était sous des arbres. Durant 700 jours, je vis à l'extérieur. Tout le temps qui pleuve, sous le soleil, sous les tempêtes de sable, on vit à l'extérieur. Et on apprend à vivre comme eux. Et puis surtout, on apprend à disparaître. Parce que le but, c'est qu'on ne soit pas vu, évidemment, des alentours, des bergers qui peuvent passer, et du ciel, à cause de la...
Avec les drones.
Voilà, exactement.
Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces moments-là, au-delà du mental, dans les conditions de vie pure, le fait d'être à l'extérieur, comme vous le dites ?
Je pense que, enfin, pour moi, ce qui était difficile, c'était juste s'accoutumer aux conditions de vie, c'est-à-dire dormir sur le sol, manger sur le sol, se laver en pleine nature, le manque d'hygiène, et puis les insectes, j'en parle quand même pas mal dans le livre, c'est une cohabitation qui a été difficile.
Oui, il y a une cohabitation avec un scorpion qui se passe mal.
Notamment, ouais, parce qu'il y a des choses très dangereuses, il y a des serpents, il y a des scorpions, puis même les fourmis, ça semble tout bête, mais elles mordent, elles sont... Enfin, ouais, c'est très vivant, enfin, c'est très 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 vivant comme endroit. On n'est rien, hein. La nature est quand même omniprésente, elle est plus grande que vous.
Ouais. Et vous changez, comme vous le dites, régulièrement de localisation. Parce que pour ne pas se faire repérer, c'est ça l'idée ?
Voilà, à peu près tous les 15 jours, l'hiver, la période froide, on restait un mois, souvent au même endroit. Mais dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a quelque chose, si un berger passe, forcément on plie bagage et on partait.
Ouais. En tant que journaliste, puisque vous êtes journaliste, vous continuez à l'être durant cette captivité, vous allez tenter de comprendre ce qui est arrivé à nos collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevés puis assassinés à Kidal le 2 novembre 2013. Et à peine 4 jours avant votre libération, vous interviewez le numéro 2 du JNIM, c'est Danak Guitta, qui reconnaît auprès de vous avoir été le commanditaire de l'enlèvement, et il vous livre sa version de l'assassinat.
Voilà, il reconnaît le commanditaire de l'enlèvement, mais il me dit quand même à souligner que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre, parce qu'il ne pouvait pas.
Parce qu'il n'est pas sur place, voilà. Il n'est pas avec le commando qui a enlevé Ghislaine et Claude.
Hein. Il n'a pas les moyens, me dit-il, de communiquer avec ce commando. Ouais. Mais c'est lui qui a demandé d'amener les deux journalistes. Mmh. Et ça a été un focus pour moi, essayer de savoir ce qui s'était passé avec les deux journalistes. Parce que moi-même, je suis journaliste. Moi-même, j'étais dans la région de Kidal et j'avais l'impression qu'il fallait que, voilà, je sache.
C'était peut-être votre défi majeur, écrivez-vous. Voilà, comprendre ce qui leur est arrivé.
Voilà.
Que vous dit-il donc? Que c'est bien lui qui leur a demandé l'enlèvement des deux journalistes. Et ensuite, on sait que la version qui nous a été livrée et qui est la version que l'on connaît des autorités françaises, et ils sont enlevés. Le véhicule part dans le désert. Le véhicule tombe en panne. Ils sont exécutés. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, de cette séquence-là?
Alors, il dit la même chose. Oui, le véhicule est tombé en panne. Ils sont exécutés. Mais il rajoute, comme d'autres djihadistes que durant ces 700 jours, j'interrogerai sur cette question, parlent d'une intervention aérienne ou terrestre, ou les deux. On parle d'hélicoptères, de mirages, de drones, mais quelque chose est venu troubler les djihadistes. Enfin, une intervention aérienne aurait troublé les djihadistes et aurait mené à la mort, me disent-ils, des deux journalistes.
Oui.
C'est leur version à peu près globale.
Et oui, tous vous disent ça, oui, à peu près.
Il y en a même un qui me dira, mais tu sais, cette version-là, elle est connue des djihadistes, il n'y a que vous, en France, qui n'êtes pas au courant. Et nous, on sait tous que ça s'est passé comme ça.
Ouais. Et Sedan Agita, est-ce qu'il vous dit précisément que c'est sous la menace de cette intervention aérienne que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés?
Alors, c'est là où c'est un peu compliqué. Il y a deux choses avec Sedan Agita, parce qu'on avait, l'interview était un peu spéciale. Il ne parle pas très bien le français, donc je devais lui poser les questions qui étaient traduites en arabe. Se sont retirés, il était avec Abdallah Galbaka d'ailleurs, que j'interviewerai aussi. Ils répondent à les questions de leur côté, le lendemain matin, ils revenaient pour me donner les réponses. Donc on avait prévu quelque chose, c'est qu'on passe les questions ensemble, donc il y a une sorte de off si vous voulez, puis après il y avait les questions qui m'ont remis sur carte SD. D'accord. Et qui m'ont remis. Donc en off, ils parlent de cette intervention. Ils parlent d'une intervention avec hélicoptère, ils me disent c'est à cause des Français, les Français sont intervenus. Mais dans les réponses traduites en arabe, ça ne transparaît pas.
D'accord. Et c'est leur version.
Hein. Et c'est leur
précise
version
évidemment que c'est leur version vous n'avez pas moyen de recouper cette version. Et je précise que les autorités françaises, qu'elles soient militaires ou politiques, ont toujours démenti la présence d'un hélicoptère et une intervention avant l'assassinat de Ghislaine et Claude. On dit c'est leur version. Est-ce que vous la croyez, cette version?
Moi, je la prends pour ce qu'elle est. C'est difficile. La difficulté, évidemment, que j'avais là-bas, c'est qu'on ne peut pas vérifier. Par contre, on peut reposer la même question à nombre de djihadistes. Et quand je pose cette question tout au long de ces 700 jours à différents djihadistes, de différents rangs, c'est la réponse qui m'est faite. Ouais. Donc, voilà, je la prends en tant que telle. Il faut ajouter aussi quelque chose. Il y a de la désinformation quand même chez eux. Ils ont un réseau de radio d'où viennent les informations. Ils remettent en cause, par exemple, certaines informations que je pouvais entendre de RFI. Et donc, oui, il y a une sorte de désinformation aussi. Alors, c'est compliqué de savoir si c'est vrai, pas vrai. Ouais,
c'est
en tout cas,
version.
Elle revient tout le temps, cette version-là, chez eux.
Bon, on a été ravis de vous recevoir ici à RFI, que vous avez tant écouté durant votre captivité.
C'était très d'union avec la réalité.
C'était votre compagne.
Exact.
Quotidienne. On vous réveillait. On vous accompagnait, puis il y avait les messages, bien sûr, de vos proches. Ouais. Chaque 8 du mois, c'était important, ça, Olivier Dubois.
C'est super important, évidemment. C'est l'espoir, hein. Vous êtes une sorte de distributeur d'espoir via la radio.
Bon, ben on est ravis d'avoir fait ça. Des fois, on sert à quelque chose. Merci, Olivier Dubois.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'être venu ce matin sur RFI.
Olivier Dubois, auteur du livre « Prisonnier du désert 711 jours aux mains d'Al-Qaïda », publié aux éditions Michel Lafon.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
glaucome et cataracte, deux maladies oculaires plus fréquentes avec l'âge.
Demain,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Géopolitique, environnement, société, économie, sport, nous abordons tous les sujets, nous confrontons tous les points de vue.
Non, mais je m'inscris en faux sur tout ce qui est dit à propos...
C'est pas vrai. Ah bah, si, c'est un mensonge.
Ah si, il y avait le logo. Ça paraît compliqué, là, pour le moment. Je crois qu'il faut plutôt savoir ce qu'il n'a pas fait.
Les plus grands spécialistes s'expriment sur ce qui fait l'actualité. Le débat du jour, c'est du lundi au jeudi à 17h30 TU sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.